De nombreuses personnes croient que les investisseurs à succès se fondent sur leur instinct pour prendre de bonnes décisions de placement. En fait, l'impact des émotions sur les investisseurs est tel qu'il existe un champ d'études en finance qui y est entièrement consacré, soit le domaine de la finance comportementale. Un prix Nobel d'économie a même été accordé à un chercheur dans ce domaine. Quel est le rôle des émotions dans le monde du placement? Ces dernières sont-elles nuisibles ou utiles à vos placements? Quels sont les biais comportementaux qui teintent le jugement des investisseurs? Les professionnels sont-ils à l'abri de ces biais? Et quelle est l'alternative à un processus d'investissement fondé sur l'émotion? Bonjour, je m'appelle Raymond Kerzero et je suis directeur de la recherche avec PWL Capital. Aujourd'hui, l'investissement décomplexé discute des montagnes russes du placement avec François Doyon-Larochelle et Peter Gay, tous deux gestionnaires de portefeuille chez PWL Capital. Investissement décomplexé vous offre des idées pour la gestion de votre portefeuille en compagnie d'experts chevronnés. Nous expliquons le monde du placement de façon simple dans une ambiance décontractée. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Beaucoup de gens croient que les investisseurs à succès ont un instinct qui les guide vers des profits extraordinaires en bourse. Qu'est-ce que vous en pensez? Peux-tu commencer, François?
Ben oui, certainement. Je pense qu'il est possible. Je pense qu'il n'est pas impossible que les gens basés sur leur instinct aient des performances extraordinaires. Mais je te dirais que c'est probablement une grande minorité de ces gens-là qui réussissent cet exploit. Je ne pense pas que c'est une bonne chose de se baser sur ses instincts, son « gut feeling » pour gérer un portefeuille. Dalbar, une firme américaine, mène des études année après année. Ces études-là s'appellent en anglais « Quantitative Analysis of Investor Behavior », l'analyse quantitative des comportements des investisseurs. Puis ce rapport-là ou cette étude-là mesure les effets des décisions de vente, d'achat, de transfert des investisseurs dans les fonds mutuels sur des courtes puis des longues périodes. Puis les résultats, année après année, c'est que l'investisseur moyen obtient des résultats dans leur fonds mutuel qui est bien inférieur au résultat même de ce fonds mutuel-là. Puis ça, c'est parce qu'ils vendent, ils achètent à des moments qui sont inopportuns.
Donc, si je comprends bien, on réalise que par des études que si les investisseurs ne transigeraient pas leur fonds mutuel, ils auraient des meilleurs rendements.
C'est exact. Juste pour renforcer ce point-là, il y a une étude qui a été publiée dans les années 2000 qui étudiait les 17 années précédentes aux années 2000. Puis l'S&P 500 sur les 17 années a fait 16,3% de rendement. Et les investisseurs dans les fonds mutuels américains ont fait seulement 5,3% de rendement. C'est une différence énorme de 11%. Puis Dalbar mène ses études sur différentes classes d'actifs et aussi des obligations. Puis c'est le même phénomène qui se répète. Puis ça, c'est année après année. Dans nos relations, tous les jours, on entend toujours parler de quelqu'un qui parle de ses bons coups, mais on n'entend pas souvent parler des gens qui ont fait des mauvais coups.
Ouais, c'est tout à fait ce que aussi un très bon livre écrit par Carl Richards qui s'appelle en anglais The Behavior Gap ou en français l'écart comportemental qui décrit ce phénomène-là très bien aussi et je suis tout à fait d'accord. On voit ça tellement souvent que c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont mieux adaptées à prendre le risque des marchés que d'autres. Donc, comme exemple, quand il y a un événement très turbulent dans les marchés, comme récemment le Brexit, la décision de Brexit, il y a certains qui regardent ça puis disent « ça, c'est une opportunité. Là, je peux acheter à bon prix. » Et puis, il y a d'autres qui regardent ça puis qui disent « vends, c'est mauvais pour les marchés, ça va planter les marchés, je veux vendre. Ouais. » Et on voit ça vraiment, mais c'est toujours important de savoir que pour toutes les personnes qu'on regarde et qu'on dit « oui, cette personne-là, il a un bon instinct de placement, il a vraiment une intuition qui est meilleure que les autres », tellement souvent, c'est parce que les principes de base de placement de cette personne-là sont fondamentalement bien conçus. Donc, entre autres, qu'ils ont bien choisi une allocation de départ, ils se sont dit « oui, je me fie sur mon allocation de départ et toutes mes décisions seront à partir de cette allocation-là. » Donc, soi-disant, si les marchés plantent, si je reviens, si j'ai besoin de revenir à mon allocation de départ, ça veut dire que j'achète. Et donc, ça force ces investisseurs-là à acheter lors des périodes turbulentes et qui causent beaucoup de crainte. Et ça les force à vendre quand les marchés vont super bien. Fait que souvent, quand on parle d'instinct puis d'intuition, on pourrait repackager ça, on pourrait remettre ça dans une autre perspective puis dire non, c'est fondamentalement du monde qui ont une bonne structure, un bon framework de départ pour faire leur placement.
Tandis que tu y es, Peter, ça fait plusieurs années que tu travailles avec des clients investisseurs. Peux-tu nous parler un petit peu pourquoi les investisseurs sont émotifs à propos de leur placement?
Il y a plein de raisons. Les investisseurs sont émotifs par rapport à leur placement parce qu'ils souvent, ils voient dans ça leur habilité de continuer à vivre leur façon de vivre. Donc, souvent, par exemple, on voit les investisseurs qui, avant qu'ils soient à la retraite, sont très portés à prendre du risque. Ils ont encore du temps à faire des épargnes. Ils se trouvent avoir beaucoup de volonté à prendre le risque des marchés en pensant que si je fais un mauvais coup, j'ai du temps à me rattraper. Mais une fois qu'ils deviennent à la retraite, ces intuitions-là, ils changent. Ces comportements changent. Et leurs émotions par rapport à leur argent deviennent beaucoup plus « je suis moins porté à en perdre parce qu'il faut que ça dure ».
Donc, en vieillissant, si je comprends bien, ça peut qu'on devienne plus émotif avec nos placements parce qu'on en dépend davantage, n'est-ce pas?
Effectivement. Et ça, c'est différent pour chaque individu. Je veux pas prétendre que ça va être la même expérience pour tout le monde. Il y aura toujours ceux qui sont plus risqués au début et qui resteront plus risqués, même si ça diminue un petit peu entre-temps. Ou d'autres qui sont très craintifs envers des marchés et qui resteront ou deviendront encore plus en prenant la retraite.
Et toi, François, peux-tu me décrire un petit peu les types de personnes que tu as rencontrées qui sont émotives à propos de leur placement?
C'est difficile à décrire, Raymond, les gens émotifs par rapport à leur placement. Je pense que tout le monde, à différents degrés, est émotif par rapport à leur placement. Que ce soit des gens qui sont peu éduqués, qui ont peu d'expérience dans les marchés boursiers, ou ceux-là qui sont très éduqués puis ont de l'expérience dans les marchés boursiers. Je pense qu'à différents degrés, là, il est difficile de mesurer qui est le plus émotif qu'un autre. Il y a Daniel Kahneman, un psychologue américain qui a fait des recherches puis qui a gagné un prix Nobel en 2002 en économie pour ses recherches. Puis il dit, les individus sont pas rationnels avec leur investissement. Ils sont influencés par leurs émotions ou encore par des biais de raisonnement. Puis ça, il en a fait une recherche, puis il a publié plusieurs biais de raisonnement qu'on appelle maintenant la finance comportementale. Puis il y a plusieurs biais en finance comportementale. Il y a la surconfiance, que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est que les gens pensent qu'ils peuvent faire mieux que le marché, qu'ils sont meilleurs que la moyenne. Donc, ces gens-là sont portés à faire plus de transactions, plus prendre de décisions, ce qui implique des coûts, un impact sur les impôts, puis des moins bons résultats à long terme.
Et on voit souvent ça en pratique, particulièrement, juste pour mettre un exemple tangible, avec les employés de cadre qui détiennent des options dans leur propre compagnie. Souvent, on voit cet excès de confiance où ils se disent « je connais bien ma compagnie, je suis haut placé dans la compagnie et donc j'ai confiance que ma compagnie va surperformer le marché ». Et ils détiennent alors beaucoup de placements dans leur propre compagnie. Et les résultats de ces effets-là, ben, sans parlant de Nortel et d'autres grandes compagnies qui ont fait faillite par le temps, évidemment, ça tourne à être une mauvaise décision souvent.
Ouais, nous, on a dans notre pratique, c'est souvent les entrepreneurs qui sont peut-être pas les plus à risque, mais qui ont de forts biais. Les entrepreneurs, ils ont bâti, toute leur vie, ils ont bâti quelque chose. Puis rendu, quand ils sont à placer leur argent dans les marchés boursiers, ils perdent un peu le contrôle de leur placement. Toute leur vie, ils ont contrôlé leur entreprise, ils l'ont amené à faire des bons profits. Puis maintenant, quand ils investissent à la bourse, ben ils n'ont plus le contrôle. Donc, ces gens-là deviennent beaucoup plus émotifs, je crois, avec leur placement, le fait de perdre le contrôle. Je pense que la bourse, c'est une façon, si on joue à la bourse ou si on investit à la bourse, c'est une façon très onéreuse de jouer avec ses émotions. Il faut essayer de maintenir ses émotions « in check » en anglais. Ou
Le placement, c'est pas vraiment pour s'amuser, hein?
Non, du tout.
Ouais. Et autant si on va parler des cas où il y a des investisseurs qui ont un excès de confiance ou qui se pensent meilleurs que le marché, si vous voulez. Il y a aussi, de l'autre côté, les investisseurs qui sont émotifs, mais de façon négative envers leur placement. Donc, je pourrais citer des exemples de clients où ils ont constamment peur que la prochaine chute des marchés, le prochain marché baissier, viendra demain. Et donc, ils sont portés à ne jamais prendre de risques. Donc, autant sur le côté excès de confiance que manque de confiance, on voit les effets de ces émotions-là de tous les bords.
Justement, Peter, j'aimerais ça t'entendre parler un peu des éléments qui déclenchent les émotions chez les investisseurs.
En fait, comme mentionné au début, un parfait exemple, c'est la récente décision du Royaume-Uni de se séparer de l'Union européenne. Et je dirais, en fait, une petite histoire, je vous raconterai. Moi-même, le matin, je suis un professionnel du placement, je fais partie de l'industrie. Et le matin, j'étais dans ma salle de bain en train de brosser mes dents. Et j'ai entendu ça aux nouvelles et ça m'a vraiment frappé. Sur le coup, j'ai réalisé que, pour moi, mes émotions ont monté et j'ai eu une crainte envers qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour mes placements, pour les placements de mes clients? Et j'ai réalisé à ce moment-là que, veux pas, on est tous émotifs par rapport au marché, par rapport aux placements, par rapport à nous, que je sois professionnel ou quelqu'un d'autre. Et donc, il y aura toujours dans les nouvelles des raisons de devenir émotionnel, et encore plus quand c'est des nouvelles que toutes les sources veulent en parler. Donc, toutes les grandes sources de nouvelles. Brexit, c'en est un très bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Peut-être, François, t'en
oui, mentionnes. Il y en a plein d'autres, puis les clients sont des fois, ils vont un peu nous le reprocher, ce qu'on appelle le biais de rétrospection. Ah, bien, vous le saviez, ça s'en venait. Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose dans mon portefeuille avant que ça arrive? Mais c'est après les faits, oui, c'est facile de dire ça. Mais avant les faits, non, le vote pour le Brexit semblait que ça allait être un remain puis que les gens allaient rester à l'intérieur de la zone euro. C'est la même chose pour l'an passé, la chute du prix de baril de pétrole. Ben, des clients qui veulent dire, ben, vous saviez que le baril de pétrole allait baisser, le dollar canadien a été impacté, la bourse canadienne a été impactée, pourquoi vous n'avez rien fait? Par contre, si on se ramène un an et demi, deux ans avant, ben on parlait de peak oil, on parlait de ressources qui étaient difficiles à extraire puis qui étaient de plus en plus coûteuses. Puis là, ben, tout d'un coup, à l'intérieur de deux ans, on se retrouve avec un baril de pétrole qui est assez bas.
Et même dans la conversation qu'on vient d'avoir, François et moi, à ce sujet-là, on vient d'exposer un autre biais qu'on est tous à sujet. On se trouve tous à être, qui est problématique, c'est le biais de récence. Les nouvelles plus récentes, on est plus porté à leur donner du poids dans nos décisions, à leur donner de la considération dans nos décisions, que les nouvelles plus éloignées. Et donc, juste dans cette conversation-ci entre nous, on se trouve à dire « Ah, Brexit, je retourne là-dessus comme exemple, et baril du pétrole l'année passée. » Mais ce qui s'est passé il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça a moins d'importance dans nos décisions. Et c'est un biais émotionnel, comportemental, qui affecte nos décisions, qui rend en sorte que nos intuitions, nos instincts sont très imparfaits.
Donc, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que quand on parle de la manière dont les émotions peuvent influencer les décisions de placement, on ne parle pas seulement de la peur de perdre de l'argent. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toutes sortes de biais comportementaux qui peuvent impacter notre façon de prendre les décisions de placement.
Absolument. Tout à fait d'accord.
Et en fait, c'est même, on aime penser qu'une fois qu'on les a identifiés, qu'on peut les éviter. Et il y a plein d'études comportementales, psychologiques, qui démontrent que même si on les identifie, même si on est au courant du fait qu'ils existent, c'est très, très, très difficile de s'arrêter de faire ces erreurs-là et de ne pas être affecté par ces biais. Donc, c'est un endroit de recherche qui est très, très, très intéressant à ce niveau-là.
As-tu un exemple qui te vient à l'esprit? Ça fait au-dessus de 10 ans que tu travailles avec des clients, Peter. As-tu un exemple qui te vient à l'esprit d'une décision émotive qui a été prise, admettons, par un client?
Je dirais, L'exemple général, c'est à chaque fois qu'il y a un grand événement dans les portefeuilles, qu'on reçoit des appels et des courriels. On est fortuné ici chez PWL que nos clients sont mieux éduqués à ce niveau-là. Une fois qu'ils comprennent la philosophie de placement, ils se rendent compte que notre réaction à des événements surprise, si vous voulez, est de dire non, on ne change pas le plan juste parce qu'il y a eu une surprise dans les marchés. Mais les réactions plus spécifiques, les exemples plus spécifiques, ça vient... L'exemple que je donnerais particulièrement, c'est des clients qui détiennent beaucoup d'options d'achat dans leur propre compagnie. Donc, l'année passée, par exemple, un client en particulier détenait beaucoup de ses avoirs dans des options de sa compagnie à lui. Et avec la chute du prix de baril, c'était une compagnie énergétique, il se trouvait à vouloir se vendre ses actions sur le coup. Et il fallait lui en parler, il fallait lui confirmer que, ou lui renforcer le fait que ce n'est jamais le bon moment de vendre quand les nouvelles sont mauvaises. Parce que c'est nécessairement une décision émotive et à tout prix, on veut éviter de prendre des décisions sous des conditions comme ça.
Basé sur l'émotion, le client, des fois, peut prendre une bonne décision. Comme moi, je me rappelle, un client en 2001, il dit « Non, ça va mal, la Grèce va faire faillite, puis ça va être le bordel en Europe. Vends la moitié de mes actions. » Sur le coup, en 2011, il a eu raison. Mais après coup, c'est quand le moment opportun pour embarquer dans les marchés boursiers? Oui, tu as pris une bonne décision de vendre, mais tu as une deuxième décision à prendre. C'est quand tu reprends dans les marchés. Hop, ça prend quelques jours, quelques semaines, les marchés remontent encore un peu plus haut. Puis le client, l'investisseur se dit, ben, je vais attendre un peu, il va avoir un point d'entrée à un moment donné. Mais le point d'entrée, ce n'est pas écrit dans le ciel qui va se représenter. Puis souvent, ces gens-là hésitent puis ne réinvestissent pas dans leur portefeuille.
C'est un effet que je vois particulièrement auprès des professionnels aussi. Je connais du monde dans le monde des placements alternatifs, des hedge funds, qui voient les marchés beaucoup comme ça. S'ils font le bon call à la baisse, ils réagissent, ils vendent, ils sortent des marchés ou même encore plus, ils font des ventes à découvert dans les marchés baissiers et ils connaissent beaucoup de succès, mais ils ont tellement de mal à changer de cap lorsque les marchés retournent vers le positif et d'admettre que oui, les choses ont amélioré et donc c'est le temps d'acheter et de se remettre dans les marchés. Donc, autant envers les professionnels qu'on voit cet aspect-là qu'avec les particuliers et les individus.
Moi, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que prendre ces décisions de placement sur la base des émotions, c'est pas une méthode particulièrement efficace. Maintenant, si on voulait tourner ça de bord, alors si vous aviez quelques bons conseils pour les investisseurs pour se donner une alternative ou une autre méthode pour avoir du succès avec leur portefeuille, pouvez-vous me faire quelques suggestions, s'il vous plaît? On va commencer avec François.
Je pense vraiment que c'est d'avoir un plan. Tout investisseur qui est à la bourse doit avoir un plan, une politique de placement. Une politique de placement qui a été longuement planifié avec l'aide d'un professionnel, un conseiller. Puis ce conseiller-là va nous guider, va nous poser les bonnes questions pour établir, un, ses besoins, ses objectifs de placement. Est-ce qu'on veut placer de l'argent pour l'éducation des enfants, pour l'achat d'un chalet, pour la retraite? L'horizon de placement, est-ce que tu as plus ou moyen ou long terme qu'on place cet argent-là? Il faut essayer de déterminer le risque que l'investisseur est prêt à prendre. Est-ce qu'une baisse de 5 % l'effraie? Est-ce qu'une baisse de 10, 15, 20 % c'est sa limite? Il faut poser les bonnes questions à l'investisseur. Puis ensuite de ça, il faut bâtir une répartition d'actifs du client. Combien de pourcentage en obligations? Combien de pourcentage dans le panier d'autres revenus? Combien de pourcentage en actions, actions canadiennes, américaines, internationales et pays émergents, pour établir là, vraiment une base solide sur laquelle investir pour le long terme?
Et durant ce processus-là, c'est aussi important de reconnaître le fait que ce n'est pas un processus parfait. Donc, c'est fort possible que, par exemple, si on décide, après tout ce processus-là, qu'on décide que oui, l'allocation sera 40 % obligations, 60 % actions. Ça se peut qu'après 2-3 ans, on réalise que hop, ça aurait peut-être été mieux d'être 30 % obligations, 70 % actions. Mais ce qui est le plus important dans tout ce processus-là, c'est que on ne change pas l'allocation à cause des mouvements des marchés boursiers. Quand il y a une grande nouvelle qui fait chuter ou monter les actions, ce n'est pas ces éléments-là qui viennent changer l'allocation d'actifs. Ce qui change l'allocation d'actifs, c'est des changements dans ce que François disait. Est-ce que l'objectif, la raison de placer l'argent au début, est-ce que ça a changé? Est-ce que j'achète plus de chalet ou est-ce que mes enfants ne vont pas aller à l'université ou j'ai un autre enfant, donc il faut en rajouter un? Fait que c'est vraiment.
Un changement d'emploi, par exemple.
Ou un changement d'emploi, par exemple.
Exactement. Si les circonstances personnelles de l'investisseur ont changé, là, on peut. La politique de placement doit changer. Mais la politique de placement en temps de crise reste l'ancre. On doit s'y référer pour mener à bien les objectifs de placement du client.
Et autant plus, ça informe les décisions de rebalancement du portefeuille. Donc, cette encre-là, cette ligne de base, si vous voulez, ça sert pour créer les décisions, la discipline, que de l'extérieur, on pourrait le percevoir comme étant un bon instinct, mais à la base, c'est de prendre les bonnes décisions de placement. Et le rebalancement autour de cette allocation initiale, ça fait en sorte que quand les marchés baissent, on achète. Puis quand les marchés montent, on vend. Et donc, ça a l'air d'une bonne intuition en fin de jour, mais cette intuition-là, elle vient d'une discipline puis de décisions bien fondées dès le début.
Oui, je pense que le rebalancement ou rééquilibrage du portefeuille, c'est assez important. François, peux-tu nous expliquer très brièvement de quoi il s'agit? Parce qu'on a un asset mix, on a une répartition d'actifs du portefeuille, mais par contre, il y a autre chose qui se greffe à ça, là. Hein, le rééquilibrage, c'est quelque chose d'assez important, je crois?
Oui, c'est extrêmement important. Brièvement, lorsque les marchés boursiers sont à la hausse, disons qu'on avait une allocation 50 % obligations, 50 % actions au départ, les marchés boursiers sont à la hausse, donc la proportion des actions dans le portefeuille va venir qu'augmenter. Donc, on va peut-être être rendu à 55 % actions et 45 % obligations. Donc, à ce moment-là, on a une surpondération. Donc, pour ramener le portefeuille vers son objectif de placement à long terme, qui était de 50-50, on va vendre les actions et on va racheter des obligations. Même chose en période baissière, comme on vient de connaître. Ben, si les actions font maintenant que seulement 45 % du portefeuille et les obligations 55 %, on va se retrouver à vendre des obligations pour aller renflouer la portion d'actions qui était due au marché boursier.
Donc, si je comprends bien, quand on rééquilibre, on achète bas puis on vend haut.
Tout à fait.
Bon, ben merci beaucoup, messieurs. Puis merci d'avoir participé à l'Investisseur décomplexé.
Merci vraiment.
Merci François.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez vous inscrire sur iTunes, Google Play ou pwlcapital.com. Je m'appelle Raymond Kerzero et je suis le directeur de la recherche de PWL Capital. PWL Capital est une firme de gestion de fortune responsable d'actifs totalisant 1,7 milliard de dollars. La philosophie de placement de PWL se fonde sur la science plutôt que sur des modes passagères. Il existe des preuves considérables à l'effet que la gestion active de portefeuille offre peu de valeur ajoutée. Par conséquent, l'approche la mieux avisée est de capturer les rendements des marchés financiers. PWL Capital ajoute de la valeur en se concentrant sur 5 éléments qui sont contrôlables, soit les marchés sont efficients, nous évitons donc d'investir sur la base de prédictions, la diversification à l'échelle mondiale est une priorité, capturer les primes de risque offertes par le marché, gérer le risque en contrôlant la structure du portefeuille, minimiser les frais et les taxes.